EducPop.
L'éducation populaire va-t-elle changer le monde ?
Juliette et Valentine vous emmènent faire un tour d'horizon de ces pratiques collectives d'émancipation et de transformation sociale.
Une émission mensuelle coproduite par CEP et Radio BLV.
Bonjour, je suis Juliette et je suis avec Valou. Bonjour Valou.
Bonjour.
Et on est toutes les deux de l'association CEP comme les champignons. CEP, c'est une association d'éducation populaire à Valence qui propose des ateliers de quelques heures, des stages de plusieurs jours, des événements pour se rencontrer et de l'accompagnement personnalisé pour les initiatives d'EducPop du territoire. Un peu comme le rhizome des champignons qui nourrit la forêt, CEP, c'est un terreau dans lequel on a envie que les gens viennent puiser pour devenir des agitateurs et des agitatrices sociales. On y découvre des enjeux politiques et des thématiques de société, on s'y familiarise avec des outils et des méthodes d'EducPop, on rencontre d'autres personnes curieuses et engagées et on y crée des occasions de passer à l'action et de faire ensemble.
Dans cette perspective, nous sommes avec vous une fois par mois pendant 30 minutes sur Radio BLV pour vous parler de notre passion pour l'éducation populaire. Nous vous proposons un tour d'horizon de ce qui constitue, selon nous, l'éducation populaire et on découvre des sujets, des outils et des invités au fil des émissions. Bienvenue dans EducPop, l'éducation populaire va-t-elle changer le monde ?
Et aujourd'hui, on enregistre cette émission et on est l'avant-veille du 8 mars, journée pour les droits des femmes. C'est une journée thématique nationale qui est l'occasion de mettre en lumière les combats pour l'accès aux droits et l'égalité des droits pour les personnes sexisées. En vrai, nous on trouve que la journée des droits humains, ça devrait être tous les jours, mais on va quand même saisir cette occasion pour reparler de féminisme et de lutte sociale. Et pour parler de ça, on a aujourd'hui deux invités, Chloé et Steph. Bonjour.
Hello.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission, je suis très contente de vous recevoir. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement ?
Stéphanie, moi je suis ici en tant que membre de l'association Paillettes et Points Levés.
Et moi aussi, et je suis Chloé.
Et je fais aussi partie de l'association Paillettes et Points Levés par ailleurs. C'est quoi Paillettes et Points Levés ?
Alors, Paillettes et Points Levés, c'est une association du bassin valentinois qui porte un festival du même nom, car il est quand même très chouette. Et puis, l'idée, c'est de fédérer un peu les initiatives féministes sur le territoire, de célébrer notre lutte et nos actions.
Donc un festival féministe ?
Un festival féministe, le premier
à Valence,
de Valence
même. Trop bien. Et il a lieu bientôt, le prochain ?
Oui, et ben là, on va faire la deuxième édition, le 28 et le 29 mars.
Ok, trop bien. Alors, on va revenir un petit peu en arrière. Un festival féministe, d'accord. Mais d'abord, pourquoi le féminisme ? C'est quoi le féminisme pour vous ? Comment vous définiriez ça ?
Alors, pour moi, je définirais le féminisme, en fait, comme tout un ensemble de choses. Mais pour moi, c'est vraiment à la fois la lutte pour l'égalité des droits et contre un système de domination qui est le patriarcat. Après, je ne vais peut-être pas rentrer dans des grandes explications, mais voilà, pour le résumer, grosso modo pour moi.
Okay.
Et pour moi aussi, le féminisme, c'est une clé de lecture, des sortes de lunettes de compréhension du monde. Et lorsqu'on commence à gratter un peu et à découvrir un peu tout ça, je trouve qu'on voit le monde d'une manière complètement différente et on le comprend de manière différente.
Ok, et tu as l'impression de mieux le comprendre ?
En tout cas, je vois des choses que je comprends des choses d'une certaine manière bien différente de lorsque j'avais gratté cette histoire de féminisme.
Ok, d'accord. Moi, j'ai l'impression que c'est pas forcément plus agréable à vivre comme vision du monde, mais que je comprends quand même mieux les dynamiques, les logiques, pourquoi il se passe ça, et aussi qu'est-ce que je peux y faire. Je trouve que ça donne du pouvoir d'agir quand même, le féminisme. Et comment vous êtes devenue féministe ? Parce que j'imagine qu'on ne naît pas des féministes.
Alors moi, c'était... il y a vraiment un moment, je me souviens, c'était à une soirée de salsa cubaine, car je danse la salsa cubaine depuis très longtemps. Et moi, je suis un petit peu grande gueule quand même, et j'aime bien taquiner les garçons, parce que j'ai grandi avec trois frères. Et donc, je taquinais ce gars, enfin, je l'envoyais bouler, en fait. Et il m'a dit, toi, je suis sûre que t'es une féministe. Et alors, vraiment, d'une façon, genre, c'était une critique, quoi. Enfin,
ouais,
c'était vraiment un jugement.
Insulte, quoi.
Et j'étais là, mais pas du tout. Et en fait, ça m'a travaillé. J'ai regardé, mais qu'est-ce que c'est? Et c'est comme ça que je suis devenue féministe. J'étais là, mais oui!
Finalement, c'est grâce à lui.
Mais oui! Mais d'ailleurs, drôle. Je l'ai revu 10 ans après et je l'ai remercié.
Ah, trop drôle. Ok. Et ça, c'était. T'avais quel âge?
Je pense que j'avais 24-25 ans.
Ouais, ok. Et toi, Steph?
Alors moi, contrairement à Chloé, c'est pas un moment précis. Je pense que ça s'est fait vraiment sur du long temps, entre mes premières lectures du magazine Cosette à l'époque, et puis voilà, de discussions entre copines qui m'ont d'abord un peu sensibilisée à ces questions. Et à un moment dans ma vie, j'ai repris des études en sociaux. J'ai fait des études et j'ai choisi un master sur les études de genre. Et alors là, ça a été la grosse claque. Mais enfin voilà, à la fois sur les enjeux donc de genre, de féminisme et de façon générale sur voilà la prise de conscience des systèmes de domination et donc je le daterais plutôt là, même si en effet ça s'est pas fait du jour au lendemain.
Ouais, la socio en général, ça te file pas mal de lunettes d'un coup.
Ouais.
Ok, c'est marrant, moi aussi c'est un gars qui m'a un peu poussé vers le féminisme. J'ai sorti une connerie qui m'a dit, mais Juliette, tu peux pas dire ça quand même, t'es une meuf, tu devrais être féministe.
Oh wow.
Du coup, c'est une autre sorte de reproche. Ouais. Du coup, j'étais hyper vexée, donc je suis allée voir. Ok, donc le féministe, c'est ça, très bien. Mais pourquoi faire un festival féministe? En tout cas, pourquoi celui-là? Pourquoi Paillettes et Points Levés? Comment ça s'est passé?
Alors, comment ça s'est passé? En fait, à l'initiative, au départ, il y a eu, il y a un peu plus de 2 ans maintenant, une réunion qui a été proposée par des personnes qui font partie de collectifs féministes sur Valence, aux différents collectifs et assos féministes, avec l'idée qu'il se passait pas mal de choses sur la région, sur le bassin valentinois, mais en fait qu'on se connaissait pas forcément tous et toutes, qu'on faisait pas forcément des trucs ensemble. Et de cette réunion est née l'envie par certaines personnes de justement pouvoir se visibiliser, se fédérer, pouvoir mener un projet ensemble. Et donc cette idée de festival motivait un petit nombre de personnes. Donc c'est à partir de là que le groupe s'est créé. Et donc pourquoi, en effet, il y a vraiment à la fois cet enjeu de montrer qu'il se passe des trucs en termes de féminisme et en termes de lutte. Sur ces thématiques, sur le bassin valentinois, et donc de se connaître, de se reconnaître entre nous, et puis de pouvoir toucher aussi d'autres personnes qui ne nous connaissent pas encore.
Donc à la fois de faire un événement féministe, il se passe des trucs dont le festival, et montrer qu'il se passe d'autres choses à travers des associations du territoire, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
De donner à voir leurs actions.
Mais aussi faire la fête, c'est vraiment écrit. Dans la charte du festival, qu'on veut faire la fête aussi.
Ok, et ben ouais, c'était ma question. Du coup, ça, c'est l'origine. Mais du coup, pourquoi faire un festival? Pourquoi vous trouvez ça important? Ou intéressant ou...
Moi, je pense que c'est le côté un événement qui se montre, qui se voit, qui prend de la place, qui est affiché partout dans Valence, qui est festif, où on se retrouve, où on se fait plaisir, où on apprend des choses. Je pense que c'est tout ça.
Oui, je dirais pas beaucoup mieux. Ouais, en effet, la dimension conviviale, et puis en même temps, enfin voilà, en effet, le truc de, quand on en a discuté, on avait plein d'idées différentes, on peut pas forcément tout regrouper sur 2 jours, mais à la fois, enfin en fait, qu'il y en ait pour tout le monde, à la fois pour des personnes qui ont déjà beaucoup de connaissances et des choses aussi pour des gens qui ont peu de connaissances, que ce soit quand même accessible à tous et toutes, et avec en effet cette dimension festive aussi.
Donc à la fois de la pédagogie, faire monter tout le monde en compétences et tout, donner à voir et faire la fête.
Ouais.
Trop bien. Moi, j'adore les festivals en général et les festivals féministes particuliers où je suis nourrie intellectuellement, stimulée et tout dans tous les sens. Donc c'était une des raisons pour lesquelles j'ai voulu rejoindre le collectif. Et aussi parce que j'aime bien l'organisation collective. Que je trouve c'est bien d'en parler, c'est bien de le faire en théorie, c'est bien d'apprendre à le faire, mais le faire concrètement, en fait, il n'y a rien qui remplace ça. Et que du coup, ce festival, c'est l'occasion d'être une dizaine de personnes, 10-15, à se retrouver régulièrement pour faire que ce festival y voit le jour. Et moi, là-dedans, je vois des liens, des parallèles avec l'éducation populaire que ACEP ont défini comme des pratiques collectives d'émancipation et de transformation sociale. Alors du coup, ma première question, ce serait, est-ce que l'Edupop, ça vous parle?
Oui.
Merci.
On peut arrêter cette émission de radio, c'est
pour voilà.
Est-ce que ça vous parle et comment, genre, comment vous la côtoyez ou vous l'avez côtoyée? Est-ce que c'est un objet non identifié que vous voyez de loin? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites, vous?
Alors moi c'est un objet un peu quand même identifié puisque à la base enfin de par ma formation je viens aussi du milieu de l'animation puis du travail social et du coup enfin voilà en fait cette notion d'éducation populaire je l'ai à la enfin j'ai pu la voir à la fois dans mon boulot et puis après dans mes engagements associatifs. Et en effet, enfin voilà, pour moi, l'idée de faire des choses collectivement et de monter en compétences collectivement, comme tu as pu le dire, moi c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Même si après, en effet, le festival Paillettes et Points Levés, ben, on y reviendra, mais je pense qu'il y a de l'éduc pop dedans. C'est pas clairement affiché comme ça, mais je pense que ça, voilà, que ça peut transparaître quand même.
Et moi, dans ma première expérience professionnelle qui a duré 4 ans, je travaillais pour une association de solidarité internationale et je travaillais avec des associations d'éduc pop. Alors, du coup, moi, je parlais plutôt de éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale, EXI, et j'étais formée à ça. Mais clairement, c'est l'éducation populaire rattachée à la solidarité internationale. Voilà, et du coup, bah, je faisais des animations, je faisais des formations, on se basait sur ces outils, etc. Et moi, ça a vraiment... Enfin, je suis tombée là-dedans un petit peu par hasard avec cet emploi, et j'adore ça. Et ça ne me quitte pas, en fait. Et j'ai travaillé j'ai eu d'autres expériences qui n'avaient vraiment pas forcément de rapport avec l'EXI ou l'éduc pop, mais ça, en fait, une fois que t'es rentré dedans, ça guide tes pratiques pour toute ta vie, tes pratiques professionnelles, quoi.
Ouais, c'est un virus une fois que tu l'as chopé.
Mais oui.
Trop bien. Et ben, avant d'explorer plus avant dans quelle mesure il y a de l'éduc pop dans ce festival ou dans l'organisation de ce festival, on va faire une petite pause musicale. Et Chloé, tu nous as choisi une musique.
Oui.
C'est quoi?
Alors, je saurais pas redire le nom. Car j'ai une très mauvaise mémoire des noms, mais je l'écoute en non-stop depuis lundi et elle est super et je crois que l'artiste est formidable et qu'il faut écouter toutes ses musiques.
On va écouter One Track Mind de Naïka.
Love had me blind, didn't see the context. That I fell for a boy with a God complex. Really had me working overtime. Cause I've been doing all of the sacrifices. Vampires, vampires sucking on my patience. I don't know, don't ask me, I don't know. How one can be so cold, baby, you're so cold. Who made them pseudo? It's too gone to rewind. That boy is a one-track mind. He's a one-track mind. That boy is a one-track mind. He's a one-track mind. Full speed on the way. Don't stop the boy, he can't stay. Done trying, it's a waste of time. He's a one-track myself out tonight. I'm gonna bring back focus to mine. Oh, la gaily, la gaily. If you say you love me, tell me why, baby, why do you make me cry? What about the things that you told me last night? Give you all my loving and you gave me goodbye. It's too gone to rewind. That boy is a one-track mind. He's a one-track mind. That boy is a one-track mind. He's a one-track mind. Full speed on the way. Don't stop the boy, he can't stay. Done trying, it's a waste of time. He's a one-track mind. Gade chéri, ou pa vle tande, ou pa wè janti gason sa pa merite ou. Ou gen twa pshine chéri, ou twa fly, dili bye bye baby, nou son lot bagay.
La gel, la gel, la gel, oh.
Pa
pas vétisé.
La gueule, la gueule, la gueule, oh.
La gueule, compa.
Nous sommes de retour dans l'éducation EducPop. L'éducation populaire va-t-elle changer le monde ? Et avant cette petite pause musicale, donc j'étais avec Chloé et Steph et on parlait du lien entre organisation du festival Paillettes et Point Levé et de l'éducation populaire. Et pendant la petite pause musicale, j'ai relu la charte de Paillettes et Point Levé et il y a vraiment des trucs très chouettes écrits. Par exemple, il y a écrit « Pour nous, le féminisme, c'est potentiellement s'en prendre plein la gueule ». Et je trouvais que c'était une définition qui était vraiment, quand même vraiment chouette. Et à côté de ça, je lis que dans ce collectif d'organisation, il y a une attention constante portée aux rapports de domination et que l'idée, c'est de développer aussi du pouvoir d'agir ensemble. Et ça, je me dis, mais c'est profondément de l'éducation populaire. Est-ce qu'il y a d'autres aspects, d'autres parallèles qui vous viennent entre EducPop et organisation du festival ?
Bah, en effet, je pense que les membres de la collégiale, on a tous... je pense un petit lien avec l'EducPop, voire un gros lien avec l'EducPop, et on a tout à cœur de faire vivre le collectif avec les valeurs, je pense, de l'éducation populaire, de bienveillance, de participation active de chacun et chacune. Et je pense que oui, que l'EducPop, elle... si elle transparaît pas forcément dans le programme, en tout cas, elle est vraiment innée, je pense, dans notre organisation et dans notre façon d'interagir les unes avec les autres.
Ouais, moi je me suis dit juste que le fait qu'on apprend en faisant, qu'on apprend à organiser un festival féministe en faisant un festival féministe, et que, comme tu disais tout à l'heure, Steph, que l'idée c'est aussi qu'on monte en compétence en interne, qu'il y en a plein qui savaient pas faire un budget ou démarcher des partenaires ou créer une programmation de soirée avant d'être dans ce collectif, quoi. Du coup, ouais, mettre concrètement les mains dans le cambouis, c'est une façon de... ouais, une façon d'apprendre, une façon de faire.
Bah oui, complètement. Enfin, moi, je pense que ce collectif, enfin voilà, et c'est aussi sa force. C'est, enfin voilà, en effet, on se retrouve à faire plein de choses qu'on connaissait pas forcément avant. On intègre aussi des nouvelles personnes dans ce collectif au fur et à mesure. Donc j'en profite pour dire que il est toujours ouvert. S'il y a des personnes que ça intéresse de rejoindre ce collectif, peut-être pour une troisième édition, vous êtes bienvenus. Et puis, en effet, dans notre façon de s'organiser, on essaye d'être à la fois sur de l'horizontalité, alors on est organisé en plein de petites sous-commissions et on échange quand même très régulièrement entre nous. Et puis, tu fais référence à la charte, il y a aussi cette idée qu'on ne sait pas tout, qu'on peut parfois faire des erreurs, des maladresses et que ce n'est pas grave, mais que voilà, ça peut être important de se le dire entre nous sans se clasher ou quoi, mais que du coup on apprend les unes des autres en permanence et donc ça, en effet, je trouve que ça correspond bien aussi au principe de l'EducPop.
Ouais, carrément. Puis je trouve qu'il y a un vrai mélange de convivialité, de chaleur humaine, quoi, et d'efficacité, où je trouve que nos réunions, elles résument vraiment ça, où on en avait une du coup la veille de cet enregistrement, et à la fois il y avait un ordre du jour, il y avait des animatrices, il y avait des gens qui timaient, qui étaient gardiennes du temps, quoi, qui prenaient des notes, et en même temps on a pu digresser, on a pu raconter des trucs perso, on a pu faire des blagues, et après on prend l'apéro, on mange tout ensemble, et c'est des moments super chouettes, quoi. Et moi je sais que je suis hyper contente de pas d'aller en réunion, mais de rejoindre le collectif, quoi. Je sais que ça va être des chouettes moments, et quand j'ai débarqué il y a 2 ans, j'étais un peu impressionnée, je me demandais un peu ce que je foutais là, et puis maintenant c'est des copines, quoi.
C'est rigolo que t'étais impressionnée. Je pense qu'on était toutes impressionnées. C'est rigolo. Oui, moi, c'est sur la première édition, ce qui m'a vraiment fascinée, parce que la dernière fois que j'étais bénévole aussi impliqué dans une association. C'était plutôt dans une association type association étudiante, même si à la fin, j'étais vraiment plus du tout étudiante. Et là, moi, c'est de me dire, mais on est tellement professionnels. je trouve qu'il y avait une qualité en plus de travail et qu'on apportait toutes des choses complémentaires. Et voilà, moi, j'avais l'impression de travailler avec des pros et c'était génial. C'était même plus facile que dans mon travail rémunéré et plus agréable, quoi.
Ouais, et un truc que j'aime bien aussi, c'est qu'on a dit que c'était aussi un espace de transformation, que tu as dit, Steph, c'est aussi un espace où on peut faire des erreurs, etc. Et récemment, ça a été l'occasion de se transformer dans ce collectif parce qu'on s'est lancé un défi cette année. On a voulu faire, j'ai initié une table ronde sur l'antivalidisme et ça nous a obligés à nous poser des questions sur l'accessibilité de notre festival. Et depuis, on est dedans et c'est hyper intéressant et en même temps hyper chamboulant parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on n'était pas très accessible et qu'il y avait plein de mesures dont on n'avait pas conscience qu'il pouvait y avoir besoin et qui n'étaient pas faciles à mettre en place. Et du coup, je voulais vous poser des questions là-dessus sur à la fois la mise en place concrète des mesures d'accessibilité et de faire le lien avec l'intersectionnalité parce que ça aussi, ça figure dans la charte. Mais c'est quoi l'intersectionnalité et pourquoi c'est important ?
Alors l'intersectionnalité, en effet, on voulait que ça figure dans la charte parce que je pense que toutes dans le collectif, on a ce terme-là à cœur. Alors pour essayer de le résumer, c'est l'idée que oui, certes, on est féministe, mais qu'on est consciente qu'il y a d'autres types de rapports de domination qui se font par la classe sociale, par le fait d'être racisé ou pas, par le fait d'être valide ou pas, enfin par tout un tas de choses qu'on porte et qui font qu'on appartient à certains groupes sociaux qui sont plus ou moins privilégiés ou à l'inverse plus ou moins opprimés et que ces rapports sociaux on est tous et toutes imbriqués dedans, que ça peut s'additionner, mais pas selon une simple mécanique d'addition, mais en effet que on vivra pas forcément la même chose selon les différents types d'oppression ou de privilèges qu'on cumule. Et donc, ça, on l'a à cœur. Et en même temps, clairement, dans notre collectif, on est quand même plutôt un groupe relativement homogène de femmes cisgenres, blanches, qui ont globalement fait des études. Donc, on avait cette conscience-là dès le départ que, à la fois, c'est quelque chose qui nous semble important, mais en même temps, nous, on est situés, on ne représente pas l'entièreté des minorités qu'on aimerait voir plus visible. Donc c'est pour ça aussi que ça nous paraissait important de le mettre en avant, mais avec la conscience que nous, on ne voit pas tout et qu'on ne sait pas tout du fait de notre position.
Je suis hyper d'accord avec toi, Steph. On a vraiment toujours eu ça en tête, parce que je me souviens que dès la première édition, quand on commençait à brasser, à chercher les lieux dans lesquels on pourrait faire le festival, on a tout de suite enlevé les lieux sur lesquels il n'y avait pas d'accès PMR, ce genre de choses. Sur tous les sujets de l'intersectionnalité. On s'est demandé comment ne pas être que les Blancs du centre-ville à ce festival, etc. Tout en sachant qu'il allait vraiment falloir pas seulement qu'on en ait envie, mais vraiment mettre des choses en place pour y arriver. Après, c'était une première édition et on avait tellement de choses à faire et à apprendre qu'on savait aussi qu'on n'allait pas pouvoir mener tous les combats en même temps. Et donc là, cette deuxième édition, c'est vrai qu'il y a cette table ronde qui vraiment nous a challengés, nous challenge, car en fait, en se disant, mais oui, du coup, on va faire une table ronde sur l'inclusivité, sur l'antivalidisme, on est tombé dans un trou noir de se rendre compte qu'en fait, c'est énorme et en fait, ça nécessite vraiment. Un investissement en termes de temps, en termes d'aller chercher de l'information, d'aller chercher les bonnes personnes, d'aller chercher du matériel, c'est aussi un investissement financier. Et c'est un investissement aussi, même ça. Et je trouve que ça. Enfin, moi, personnellement, ça me brasse aussi intérieurement sur certaines choses, parce qu'en fait, ça me montre à quel point je peux être validiste. Et donc, ça me met une baffe dans la gueule. Mais alors, moi, j'adore ça. J'adore me prendre des baffes dans la gueule et me rendre compte que j'ai tort ou que je ne suis pas parfaite. je dirais pas que c'est ma passion, mais voilà. Mais voilà, c'est vraiment intéressant. Donc par exemple, une intervenante qui va venir sur le festival pour parler de l'antivalidisme, c'est une personne dont les besoins pour pouvoir intervenir, pour sa propre protection, elle a besoin que les personnes dans la salle portent un masque FFP2. Donc en plus n'est pas déjà porter un masque, en plus pas un masque chirurgical mais un masque FFP2, et en fait je me rends compte moi-même par ma propre expérience que je suis à fond pour l'antivalidisme, mais quand il s'agit de rogner sur mon propre petit confort qui est de pouvoir respirer l'heure que je veux et ne pas porter un masque, et ben c'est pas facile en fait. Et en fait moi personnellement j'adore ce challenge, voilà. Voilà, donc il y a ça et il y a plein d'autres choses. Et c'est vraiment, je suis hyper contente et je te remercie Juliette, je te l'ai déjà dit mais je le redis devant la France entière, que je trouve ça super qu'on se soit lancé sur cette table.
Avec plaisir, moi ma passion c'est de poser des problèmes collectifs. Et du coup, pour dire deux mots du programme avant de conclure, donc il y a des tables rondes, donc une table ronde sur l'antivalidisme.
Oui. Une table ronde sur également sur les violences médicales liées au genre qui s'appelle Quand se faire soigner fait mal.
Et cette table ronde, elle sera traduite
en langue des signes, tout à fait. Voilà, on fait péter la cagnotte pour pouvoir avoir c'est un petit quelque chose d'un peu plus antivalidiste.
Yes, ok. Est-ce que vous pouvez nous donner un tout petit aperçu du reste du programme ?
Oui, alors on va pas forcément tout citer, mais en tout cas, il y aura plusieurs ateliers durant toute la journée du samedi. Donc, on aura notamment un atelier sur le féminisme au travail, un atelier de réécriture de chansons sexistes. On aura aussi une conférence gesticulée sur les violences conjugales, un atelier d'autodéfense féministe, des cercles de parole en mixité choisie, un pour hommes, un pour minorités de genre. Voilà, j'oublie des choses, mais parce que je peux pas tout dire, il y a aussi le dimanche une projection documentaire et un atelier d'écriture, et puis le samedi soir on fait la fête, donc il y aura aussi concert et DJ au Vex.
Un concert de Tracy Dessa. Et voilà. Ensuite un DJ set de DJ Yara.
Trop cool. Et le samedi matin, ce sera le dimanche matin, ce sera au Cause Toujours.
Oui, je veux bien les lieux et les horaires.
Du coup, pour le samedi, donc ça se déroule sur toute la journée, donc de 10h à 18h à la MPT du Petit Charan. J'ai oublié de le dire, mais il y aura aussi du coup un village associatif quand même, avec donc les assos et collectifs féministes du coin. Le soir au Vex, c'est à partir de 20h jusqu'à la fermeture, donc 2h du matin. Et le dimanche, ça démarre à 13h30 au Cause Toujours, jusqu'à 19h où il y aura un petit pot de célébration et de clôture du festival.
Je voulais dire aussi que dans l'idée d'être inclusive, on a aussi un espace enfant pour les parents de jeunes enfants. Donc ça, c'est le samedi de 10h à 18h. Donc ils peuvent dropper leurs enfants en donnant leur numéro et leur nom tout de même. et faire tout ce qu'ils souhaitent faire au festival en étant sûr que leurs enfants sont au bon endroit et qu'on s'occupe bien d'eux. Et puis revient les chercher quand ils veulent rentrer à la maison.
Trop bien. Rendez-vous donc les 28 et 29 mars pour le festival Paillettes et Points Levés. Pour le calendrier de CEP, au mois d'avril, comme tous les premiers mardis du mois, il y aura le Café des Possibles, qui est une sorte d'apéro engagement, où l'idée c'est de rencontrer des associations engagées afin de découvrir comment est-ce qu'on peut agir avec elles, comment est-ce qu'on peut contribuer, en sachant qu'il y a toutes sortes d'engagements, des très accessibles aux plus engageants. Donc ce sera rendez-vous le 7 avril à 18h30 au Café associatif L'Art des Choix à Bourg-les-Valence, et le mois d'avril, on rencontrera l'ASTI de Valence. Et le 17 avril, le vendredi 17 avril, il y aura aussi une journée de formation dans cette même perspective de Café des Possibles pour acquérir tout un bagage de connaissances et des connaissances, des billes sur les enjeux systémiques et globaux pour pouvoir nous aider dans nos engagements, que des fois on débarque dans des associations et on a l'impression de rien y connaître. Et bien cette journée, ce sera l'occasion de déblayer un peu ces sujets-là et de découvrir aussi peut-être on a des appétences ou des attirances pour certains sujets plutôt que d'autres, et du coup on verra un peu qu'est-ce qui existe comme différentes luttes et de quoi on a besoin pour pouvoir les rejoindre. Et bien merci beaucoup d'être venus Chloé et Steph.
Ben merci à vous.
Merci.
Et on se revoit le mois prochain dans EducPop.
L'éducation populaire va-t-elle changer le monde ? Merci à vous.
EducPop.
L'éducation populaire va-t-elle changer le monde ?
Juliette et Valentine vous emmènent faire un tour d'horizon de ces pratiques collectives d'émancipation et de transformation sociale.
Une émission mensuelle coproduite par CEP et Radio BLV.